Les films qui ont changé nos regards. Michel Halberstadt.
Bonjour. Comment choisir 10 films? C'est impossible, évidemment. Demandez autour de vous, vous verrez, chacun aura un avis différent. Toute liste est subjective. Question de goût, de génération, de sensibilité aussi. La seule condition qui m'a été donnée pour établir cette liste, c'était de piocher dans le cinéma d'après 1945. Alors, après avoir beaucoup hésité, discuté, raturé et recommencé, j'ai fait mon choix. J'ai retenu les films qui ont modifié mon regard sur le monde. Moi, j'ai un rapport très affectif aux images, en fait. Je crois que j'ai choisi les films dont j'avais le plus envie de parler. On dit 10 films, mais finalement, il n'y en aura que 9. Parce que pour cette série d'été, je voulais un mentor, un parrain. Alors je suis allée frapper à la porte de Jean-Luc Godard. Il a eu la gentillesse de me recevoir chez lui, à Rolles. J'ai enregistré notre longue conversation. C'est elle qui fera office de 10e film. Nous l'écouterons pour la dernière émission de la série. C'est bien, ça tombera un vendredi 13, ça nous portera bonheur. D'ici là, chaque jour, Godard interviendra dans l'émission. Juste pour une phrase ou deux, ce sera l'instant Godard. Le principe de cette émission est simple. Chaque jour, un invité. Bonjour Patricia Mazui, c'est vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Un invité pour parler d'un film. Alors j'ai formé des couples. Certains sont surprenants, d'autres naturels. Chaque invité aura un lien avec le film du jour. Un lien qui peut être affectif, cérébral, viscéral ou simplement ludique. Chaque invité répondra à un questionnaire en fin d'émission. Une façon d'en savoir plus sur son rapport au cinéma. Un rapport à la fois concret et intime. Aujourd'hui, parrain de l'émission oblige, le premier film que j'ai choisi, c'est celui qui surplombe tout le cinéma français, on va dire. C'est Le Mépris. Le jour de sa sortie, en face de lui, il y avait les Tontons Flingueurs, Tom Jones et Charade. Le film est sorti le 20 décembre 63. Pas vraiment ce qu'on appelle un film de Noël, mais indéniablement un cadeau pour les cinéphiles du monde entier. Et donc, pour parler du Mépris, aujourd'hui avec nous en studio, nous avons Patricia Mazui. Bonjour.
Bonjour Michel.
Patricia, vous êtes réalisatrice, vous avez suivi des études à HEC, mais vous avez surtout suivi assidûment le ciné-club dont vous vous occupiez. Votre premier film, c'était Peau de vache, il est sorti en 89, il réunissait Sandrine Bonnaire et le regretté Jean-François Stévenin, il est passé un certain regard à Cannes.
Et Jacques Spiesser,
absolument. Vous avez eu le prix du public à Angers, vous avez été nommée au César et le film ressort le 25 août.
Ah, c'est bien dit, hein.
Ensuite, il y aura Travolta et moi, que vous avez fait pour la série Arte, tous les garçons et les filles de leur âge, qui aura le Léopard de bronze au Festival de Locarno et le Grand Prix à Belfort. Suivront Saint-Cyr avec Isabelle Huppert au Festival de Cannes, Un certain regard en 2000. Vous aurez le prix de la jeunesse et le prix Jean Vigo. En 2004, Bastien Mandy réalisé avec Simon Reggiani, qui sera à Venise. En 2011, Port de Fil, avec Marina Hans, présentée à Locarno.
Et Bruno Gans,
quand même.
Ouais.
En 2018, Paul Sanchez est revenu avec Zita Enro et Laurent Lafitte, un homme en fuite qui a assassiné sa famille. Et l'année prochaine, Bowling Saturne en 2022, donc, avec Harry Vortaler et Simon Reggiani.
Achille Reggiani.
Pardon. Harry Vortaler, Achille Reggiani, le thriller noir entre deux frères. Il y a un lien évident entre vous et la Nouvelle Vague. Vous avez travaillé avec Agnès Varda et Jacques Demy. Vous étiez stagiaire monteuse sur Une chambre en ville et monteuse avec Agnès de Saint-Ouen-Illois, c'est ça?
Ouais.
Raoul Coutard a été votre chef opérateur. Il est celui du Mépris. Vous dites que c'était votre papa de cinéma.
Oui, mais j'ai plus rien à dire là, Michel.
Ouais. Pourquoi?
Tout est dit.
Si vous avez dit une phrase que je trouve godardienne à mort, parfois en travaillant sur du faux, on tombe sur du vrai. Vous vous souvenez de ça?
Non, mais je pense que c'est vrai.
Et Godard,
c'est,
lui,
juste.
Vous trouvez ça juste?
Oui, ben, c'est ça le cinéma, quoi.
Alors Godard affirme, on fait le contraire de ce qu'on avait prévu, mais ça finit par ressembler à ce qu'on voulait.
C'est encore mieux dit, quoi. Mais il sait faire des phrases.
Alors Patricia, on dit que Le Mépris est un poème, une histoire d'amour et une ode au cinéma. Ce serait le plus beau film français jamais tourné, c'est ce que vous pensez aussi?
Franchement, j'en sais rien. Il y en a quand même plein des très beaux films français. Mais ça, c'est... Il est comme au ciel, quoi. C'est un film qui est au ciel.
Mais pourquoi?
Ah, parce qu'il commence avec Raoul qui touche le ciel.
Alors, bah justement, tiens, on va commencer par le début. Générique.
« Umberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Jamol. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sivel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussard s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematographica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Brille l'histoire de ce monde.
Sauf que c'était pas Hervé Bazin qui l'a dit, c'est Michel Mollet dans les Cahiers du cinéma. Ça fait partie de la légende du mépris.
Ah, ça je savais pas. Moi, pour moi, c'était Godard qui l'avait dit en plus.
Donc, vous savez qui parle ce générique? Qui dit ce générique?
C'est Godard?
Non, c'est Michel Subor.
D'accord, parce que c'est pas sa voix à Godard. Je me disais, il a changé sa voix, il a mis du vocoder dessus.
Moi aussi, j'ai cru ça longtemps.
Mais ça, il a fait du Godard.
C'est ça, exactement. Et c'est Raoul Coutard à la caméra.
Oui, qui a repassé sa chemise. Et qui est magnifique. Et qui avance et on rentre en religion, quoi. C'est comme tout de suite, ça nous met tout de suite dans un truc de tragédie, je trouve. Avec, il regarde la lumière, il touche le ciel. Et après, c'est un film, le début est hyper géométrique à 90 degrés, j'ai trouvé. À l'horizontale, avec les statues qui sont au-dessus. Et puis après, on va passer en verticale quand on va dans la maison de Capri. Mais c'est marrant.
Comment est-ce qu'on commence un film? C'est une grosse question pour vous, le début et la fin?
Oui, une très grosse question. Surtout avec les distributeurs.
Pourquoi?
Parce que oui. Non, en fait, c'est toujours compliqué de commencer un film parce qu'on attaque avec une grammaire et quelquefois un film il a une liberté et on a envie de changer de grammaire et si on met toutes les grammaires au début, on comprend plus rien, c'est le bordel. Mais si on annonce pas qu'on va changer de grammaire un petit peu. Je ne sais pas. C'est intéressant de creuser ça, de pouvoir changer de grammaire en cours de film, mais véritablement, brutalement. Mais dans le mépris, il a pas changé de grammaire.
Le mépris, il nous pose tout de suite. Voilà, c'est un cinéma qui parle de cinéma puisqu'on est en train de voir un travelling, une personne qui parle. Une jeune fille qui marche en lisant ce qu'on imagine être un scénario. Il y a la perche du micro, il y a la caméra qui se tourne vers nous à la fin. Et puis il y a cette musique aussi.
Oui, mais c'est un truc où on entre en religion directe.
C'est ça.
Et en fait, il y a le travelling qui vient vers nous de face. Et après, on est avec Piccoli et Bardot. Et là, on est à 90 degrés dans l'autre sens. Et puis, un petit coup de manivelle de Raoul, qui est quand même le dieu de la manivelle, pour aller sur les fesses de Brigitte. Et c'est un plan, on ne pourrait pas le faire maintenant. Hein.
Pourquoi?
La
censure
pas... Quoi? Oui, la censure morale, de faire un plan qui nous... En fait, il dit au début, c'est une histoire de religion, puis après, le cinéma, il filme les fesses des filles. Et c'est quand même... C'est hyper honnête, quoi. Voilà.
Le film était interdit au moins de 18 ans quand il est sorti.
Sans blague.
Oui. Et oui.
Et après, il y a le grand moment du milieu, l'énorme scène de couple.
La scène de ménage.
Dans l'endroit blanc. qui est très 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 étrange parce que à un moment on a l'impression qu'on tombe dans un cinéma français qui va discuter du couple. Et puis en fait, on est dans la tragédie tout le temps parce qu'ils s'échappent de pièces, ils vont dans l'autre. Et elle, à la fin, elle va dans l'eau pour plus lui parler, quoi. Et lui, il se réfugie dans les statues, dans les photos. Ils sont vraiment dans la solitude la plus totale, quoi. Sauf que lui, on voit qu'il va être pourri assez vite, quoi. Pauvre Piccoli.
Alors, la musique aussi, j'aimerais qu'on en parle, de la musique de Delerue, parce que j'ai écouté Un masque et la plume de l'époque où les critiques reprochaient à Godard cette musique qu'ils trouvaient trop belle. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'en Italie, quand le film est sorti, ils ont changé la musique, qui trouvaient trop belle. Oui, oui, et ils ont mis un morceau de jazz pendant toute la musique, et on n'entend pas la musique de Delerue dans la version italienne du Mépris.
Ça paraît incroyable. Fou, hein. Et on a une trace de ce qu'ils ont fait, les Italiens.
Oh, j'imagine. Moi, je l'ai pas retrouvé, mais j'imagine.
Non, mais ça doit être saisissant, quoi.
Oui, c'est ça. Absolument.
Parce que, en fait, cette musique-là, elle a marqué le cinéma français. L'ouverture du Mépris a changé quelque chose dans le cinéma français. Il y a avant le début du Mépris, puis il y a après, quoi.
Ça change, c'est-à-dire, parce qu'en même temps, c'est un peu un traumatisme, parce qu'on peut plus faire aussi bien après ça. Alors, en quoi ça le marque ?
Non, mais parce que c'est le truc qu'il a dit, je suis croyant.
J'ai foi dans le cinéma.
Ouais, il y a une foi dans le cinéma, il y a d'autres films qui font ça quand même, je dirais, puis... Mais c'est avec une primitivité énorme. Les plans, ils sont carrés. Ils sont, j'ai l'impression que je peux toucher les deux corps de Piccoli et de Bardot tout le temps. Donc, il y a ça dans tous les films de Godard, les corps.
Eh ben, écoutez, on va essayer d'évoquer cette scène d'amour dont vous parlez. On va pas la prendre au début sur les fesses que tout le monde connaît, mais plutôt la deuxième partie.
Et mes épaules.
Oui.
Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Et mon visage.
Aussi.
Tout. Ma bouche, mes yeux. Mon nez, mes oreilles.
Oui, tout.
Donc, tu m'aimes totalement.
Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
Moi aussi, Paul.
Quand j'entends Bardot, je repense à cette phrase, je ne sais plus qui a dit Bardot, c'est un parler faux qui sonne vrai. Elle a quand même un timbre incroyable, cette Brigitte Bardot, une façon de parler totalement unique.
Je dois répondre, Michel.
Bah oui,
non, je ne trouve pas qu'elle parle faux.
Non, mais elle a un phrasé particulier.
Oui, 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 mais c'est ça qui est très, très beau. Mmh. Et par ailleurs, là, quand on réécoute, on n'a même pas l'image et on voit l'image. Bon, parce qu'on connaît le film, d'accord, mais il n'empêche que ce qu'on voit, c'est que quand même, c'est du dialogue extrêmement écrit et qu'en même temps, on a l'impression qu'ils n'ont absolument pas prévu de dire le mot qui va sortir de leur bouche. On est au présent tout le temps. Et c'est ça qui est assez bouleversant. Dans le côté la tragédie, c'est méga écrit. On sait que ça va mal finir, de toute façon, avec la musique. Mmh. Et en même temps, elle dit, au début, elle est un peu privée de phrases, Bardot. Elle dit des mots. Mmh. Puis après, c'est elle qui fait les belles phrases, qui l'envoie péter, quoi. Mais c'est pas... Il y a personne qui parle faux chez Godard. C'est juste impossible. Je pense qu'il sait très bien pourquoi il fait un plan et comment il le fait.
Et cette façon de travailler sur le son, vous avez vu, on entend déjà même dans cet extrait-là, il y a des moments où la musique couvre les voix volontairement. C'est un truc qui revient très très souvent chez Godard. Comment vous interprétez ça ? Cette manière de nous faire entendre sans entendre.
Parce qu'il nous met dans la sensation, et d'une, et puis par ailleurs, je pense que parce qu'il est, il est, il aime bien... je sais pas, vous avez, c'est vous qui avez parlé avec lui pendant une heure, vous avez dû lui poser la question. En vrai, moi, je pense qu'il aime bien essayer des trucs, puis des fois, il a un côté à s'essayer à faire des trucs dingues pour voir si ça marche aussi. Mais là, dans le Mépris, ça fait pas genre essai. Ça fait pas genre on lance le filet pour voir s'il y a des poissons dedans.
Non, mais c'est comme une manière de dire bon, mais cette boule, ce morceau-là du dialogue, on s'en fout, la musique compte plus. De toute façon, vous avez compris l'esprit de ce qui se dit, donc c'est pas la peine de l'entendre. C'est ça que je trouve intéressant.
Oui, mais c'est aussi sur le mépris typiquement. L'avant, le destin des deux personnages est devant eux et nous on le voit. Eux ils sont au présent, mais nous on est avant eux. On voit que ça va que.
On voit la tragédie.
On voit, on est du point de vue des statues un peu.
Alors maintenant, il y a toujours eu un grand débat sur quel est le moment où Bardot passe de l'amour, comme on vient de l'entendre, envers Paul, au mépris. Je pense que clairement, ça va être ce moment-là.
Let's have a drink at my home. Yes or no?
Monsieur Procope, je vous invite chez lui à prendre un verre. Oui ou non?
Je ne sais pas.
She doesn't know.
You know perfectly well.
Il dit que vous le savez très bien. Oui? Paul!
Pardon. Oui, je prendrais bien un verre de quelque chose.
Paul would like to have a drink.
Include me out. A school when a real producer of Hollywood once said. Au revoir, on va au téléphone. Madame.
Entendez.
Allons-y si tu veux.
Irene, s'il vous plaît.
Asseyez-vous, madame.
Paul, you won't be comfortable back here, so why don't you take a taxi?
Vous ne serez pas confortable.
Bon, d'accord.
Allez-y, oh, wait for me, I'll come back for you.
Ou alors, monsieur Procope, je reviens vous.
Non, allez-y, je prends un taxi.
Écoute, ce sera plus simple qu'ils partent devant et qu'on prenne tous les deux un taxi.
Come on, let's go.
Décidez-vous.
Bon, allez, vas-y. Vas-y, allez, mets-toi.
Et voilà, Paul, Camille, c'est déjà trop tard. Il l'a laissé partir dans la voiture de Procope.
Et elle, il y a un plan sur elle quand elle monte dans la voiture où on voit, elle voit le truc arriver. Elle est là, tout d'un coup, elle sort, elle n'est plus la petite dactylo de 28 ans qui va lui dire pourquoi je suis allée avec une dactylo de 28 ans. Elle est une grande tragédienne, une héroïne qui voit son amour s'effilocher, quoi. Et on est dans la fin des moments à 90 degrés dont je parlais, je trouve. On restera du sol et là, ça y est, elle passe au-dessus, elle. Et on voit que lui, il se couche, il est foutu, quoi. Il s'est couché devant le pouvoir, elle est pas comme ça. C'est un truc sur quand même la cruauté des rapports de domination dans le film, elle est assez forte.
Oui, en même temps, la cruauté, elle vient de se renverser sous nos yeux, parce qu'au départ, on peut imaginer que c'est lui, l'homme important, l'homme de pouvoir, l'homme grâce auquel elle est là.
Oui.
Elle est à Rome.
Oui.
Mais elle est sa femme. Elle n'est que sa femme, oui, avant cette scène.
Et là, elle devient une héroïne.
Voilà.
Et pleine de paradoxes, c'est-à-dire qu'elle reste, elle fait quand même plein d'efforts. Elle lit un livre sur Fritz Lang. Mais elle commence à le regarder d'un autre point de vue. Sans être juste dans ses mains à lui, quoi.
Et ça que l'admiration est partie. En fait, ce qu'il y a de beau, c'est que c'est elle qui est intègre. Et lui, qui est un homme de compromis.
Et lui qui va finalement se repaître de sa propre lâcheté après. Il va être complaisant avec ça, après.
Mais c'est vrai qu'il le refera, d'ailleurs.
Mais il l'assume.
Mais je ne sais pas s'il assume, parce qu'en même temps, il passe son temps à lui demander pourquoi elle le méprise, et elle passe son temps à lui dire, alors ça, je ne te le dirai pas. C'est marrant, parce que sa dignité aussi, c'est de ne pas pointer le moment. Il a qu'à comprendre. Déjà qu'il a laissé ce moment arriver, elle va pas en plus lui expliquer quand c'était.
Oui, mais après, c'est elle qui prend les grands dialogues quand elle lui dit, si tu m'aimes, tais-toi.
Oui.
C'est quand même c'est du dialogue.
Oui, et puis parfois, elle lui dit aussi, je te connais.
Elle a tout d'un coup, elle devient une comme.
Il est tombé du piédestal pour parler des statues.
Oui, complètement. Puis quand il y a le truc avec quand ils sont dans les rushs, quand ils regardent la projection des rushs avec Fritz Lang et Jacques Palance, et que l'autre il dit ouais, ben Fritz Lang il va se coucher et toi aussi tu vas te coucher, en parlant de Piccoli. Et après il y a ce truc où c'est pas les dieux qui ont inventé les hommes, c'est les hommes qui ont inventé
Absolument.
Les dieux.
Oui.
À partir de là, elle est devenue autre chose que juste. Elle est plus la chose dans les mains de Piccoli. Dans tout ce moment-là, elle voit tout ce qui se passe, elle comprend tout, et elle s'extrait. Et elle se dit, ok, d'accord, je vais finir avec Palance pour lui montrer le trajet.
La lâcheté.
Oui. Mais là, on est passé dans la villa de Capri, où là, c'est devenu complètement avec cet escalier, le fait qu'elle aille dans l'eau. Là, on est passé que dans des trucs, j'ai l'impression à chaque fois qu'on va vers le haut ou vers le bas, ça passe de haut en bas, alors qu'avant, on était de droite à gauche ou de gauche à droite.
À Rome.
Ouais. Et après, on est de haut en bas. On est dans la verticalité entre le ciel et l'eau, quoi. C'est aussi un film sur les éléments.
Beaucoup.
Alors d'ailleurs, c'est un film, c'est un tout, quoi.
À propos d'éléments, Godard disait Piccoli est animal, Bardot, elle est végétale. Elle agit par instinct comme une plante a besoin d'eau pour continuer à vivre. Voilà. Et c'est effectivement vers l'eau qui nous amènera. Alors, on va parler du casting quand même de ce film, qui n'était pas du tout celui qui était prévu au départ, puisqu'au départ, il voulait Kim Novak et Frank Sinatra. Après, les producteurs ont proposé Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Et on ne sait pas par quel miracle on a réussi à avoir Bardot et Piccoli. Piccoli, qui se souvient très bien de la façon dont Godard l'a engagé.
France Culture, les films qui ont changé nos regards, Michel Halberstadt.
Ça s'est passé de la façon la plus plate et la plus simple au début. Il m'a convoqué, il m'a dit, voilà, je dois tourner Le Mépris de Moravia. Je dis, ah bon? Voilà, est-ce que vous voulez que je vous donne le livre à lire? Par chance, je l'avais lu, mais je dis, je l'ai lu. Ah bon? Ben là, on va tourner. Et j'ai senti que ce n'était pas la peine que je lui pose des questions. Je sentais que c'était une espèce de précision. On va tourner. Ben, il m'a dit, on va tourner, alors on tourne. Et on ne s'est rien dit. Je crois qu'une fois, est-ce que c'était avant ou après, il m'a dit, le personnage que tu joues, c'est un personnage de Rio Bravo qui aurait aimé jouer dans Marianne Bad.
Vous pensez quoi de cette définition du rôle de Paul?
C'est une image.
Oui.
Après, il a le chapeau et puis il a la serviette de bain, donc on voit bien le truc.
Il a le chapeau de l'âne Martin. Dean Martin. C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé, Piccoli, ou jamais? Vous l'avez croisé? Jamais?
Non. Il avait refusé. C'est un grand acteur.
Ouais.
Il avait refusé de faire Racine dans Saint-Cyr.
Ah oui?
Oui.
Et pour quelle raison?
Je ne sais pas. Il avait laissé un message d'insulte sur le répondeur.
D'insulte? Mais pourquoi d'insulte?
Je ne sais pas. Je pense que ça l'avait beaucoup énervé. Mais je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le rôle qui pouvait l'énerver?
Non, il parlait du film.
Ah,
oui.
Ça l'énervait, Saint-Cyr.
Il avait laissé un message d'insulte sur le film, oui. J'aurais dû garder, mais après, c'était des répondeurs à cassette et tout.
On ne garde pas les cassettes.
Oui, on ne va pas garder les cassettes, quoi. Mais le message était très, très marrant. Très énervé. Il était très vivant.
En tout cas, on peut dire d'une chose de Piccoli, c'est que quand il accepte un film, il est jusqu'au bout, il défend son réalisateur. J'aimerais vous faire écouter une archive qui date de 2009, où il parle de Godard, comme je pense chaque metteur en scène aimerait qu'un acteur parle de lui.
Comme je l'aime, ce Godard. C'est une personne très très intelligente, très très attentive, qui quelquefois a beaucoup d'humour et de drôlerie, mais qui est d'une sévérité vis-à-vis des autres, qui est d'une... C'est un provocateur, comme on dit. Mieux que provocateur, plus que ça. C'est quelqu'un qui cherche à comment penser, comment dire les choses, et il a une connaissance du vocabulaire qu'il emploie très très bien, et quelquefois très férocement. C'est quand même lui qui est allé avec son imperméable sous le bras au César, cette manifestation professionnalo-commerciale, je ne sais pas trop quoi, et qui a déclaré qu'il s'adressait aux professionnels de la profession. Alors, professionnel de la profession, c'était sans doute une moquerie de sa part. Prenez Jean-Pierre Léo et Belmondo. À l'époque, et encore aujourd'hui, enfin, maintenant, ce sont des vieillards, nous sommes tous des vieillards, mais c'était une nouvelle école, c'était une nouvelle race d'acteurs, des acteurs extrêmement souples et extrêmement intelligents. C'est rare, les acteurs très souples et très intelligents.
C'est vrai ça, Patricia Masui ? C'est rare, les acteurs souples et intelligents ?
Oula, oui, c'est vrai. Après, c'est aussi le boulot du metteur en scène de chercher à créer les circonstances pour qu'on soit tous exigeants.
Comment on fait ça ?
Ben, on cherche.
Avec l'acteur ?
Ben, en fait, je pense que le gros, 80% du boulot, c'est le casting. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un moment tellement important. Et après, sur le plateau, c'est d'arriver à recréer quelque chose qui fait qu'on arrive à être au présent. Et j'ai du mal à répondre à ça parce que moi, pendant longtemps avant, j'avais peur des répètes. Et même parce que j'étais dans cette peur de l'acteur qui fait que j'avais peur de gâcher la première prise. Et en fait, c'est du pipeau total.
Pourquoi moi je comprends cette peur de gâcher la première prise? Comment vous avez changé d'avis là-dessus?
J'ai complètement changé d'avis là-dessus avec Bruno Gans et Josiane sur Sport de filles et Marina. C'est Sport de filles qui m'a fait dans le sens où Bruno tournait dans une langue qui n'était pas la sienne. Il y avait ce truc, par exemple, dans le mépris, les mélanges d'anglais, de traduction, tout ça, ça nous met une distance narrative. Et là, il comprenait pas du tout le langage du film et tout. Et il me disait qu'il fallait que je lui donne les dialogues au moins 10 jours avant si je les changeais. Et en fait, après, quand on a fait 3 jours en équipe réduite en Allemagne, là, j'aurais pu lui demander de faire du 4 pattes tout nu sur la piste de cheval. Il le faisait, il s'en foutait parce que c'était sa langue. Mmh. Mais en fait, du coup, puisque c'était pas sa langue, il avait énormément travaillé en amont. Mais c'est aussi un truc qui vient du théâtre où il travaille tellement en amont que par contre, après, il arrivait sur le tournage et on était comme si on était, il était d'une disponibilité.
Et d'une liberté.
Et d'une liberté totale parce que il avait plus à penser ni à fabriquer. Il n'était pas dans la fabrication, il était là. Et ça marche. Je veux dire, il y a des films où il y a des natures et il y a des films où il y a des acteurs. Et après, une nature peut être un acteur, c'est pas
incompatible.
Non, mais par rapport à des rôles qui sont pas, si on n'est pas dans le naturalisme ou juste quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait et tout, etc. Souple et intelligent, c'est quand même plus agréable. Mais c'est bien aussi de la part de l'acteur que le metteur en scène arrive à être souple et intelligent aussi, et des fois on n'est pas. Tout le monde peut être con quand même, hein.
Comment est-ce que vous choisissez votre casting? Vous prenez quelqu'un qui d'après vous ressemble au rôle ou c'est pas le problème?
Je pense que j'ai besoin de le rencontrer.
Oui.
Que ça soit en essai ou si c'est une star qui passe pas d'essai, de rencontrer et de voir comment on peut se parler. Comme des fois je fais des phrases qui ressemblent à des pots de fleurs, comment il comprend ou elle comprend et comment moi je comprends. Est-ce que j'ai envie de parler? Est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose? Et après, c'est aussi une proposition. Il y a des rôles où il faut vraiment faire revenir la personne pour être vraiment sûr. Et puis des fois, si au tournage on doute, par contre, ce qui est assez bien, c'est je me rappelle qu'une fois j'étais en galère avec une actrice qui n'était pas actrice et j'avais appelé. J'avais appelé au secours la fille qui avait coaché les gamines sur Saint-Cyr et elle pouvait pas parce qu'elle s'occupait de son mari qui était bouddhiste et je sais pas qu'est-ce qu'il faisait comme truc. Et elle m'avait dit non mais juste je peux pas venir franchement parce que je lui avais demandé de venir m'aider à préparer la dame. Mmh. Et elle m'a dit je peux pas venir mais juste pense qu'est-ce qui faisait que t'avais envie de la filmer. Voilà. Et juste de se remettre ça dans la tête, ça redonne confiance dans son choix. C'est-à-dire, genre, en fait, c'était moi qui n'avais plus confiance. Et donc, ça niquait la personne en face. Voilà. Après, on peut avoir des moments durs sur avec un acteur ou avec n'importe. Il y a des moments durs sur un plateau.
Il y a des moments durs sur un plateau. Oui.
Ouais.
Oui. Oui, absolument.
Et d'ailleurs, dans le mépris, tout de suite, on sait que ça va être que c'est pas cool le film. Il le dit, c'est sur le cinéma, c'est pas cool. On sait que ça va pas être cool.
Alors, comme vous dites, un tournage, ça peut être difficile, ça peut même être la guerre.
Une œuvre d'art, c'est toujours une bataille, et que s'il n'y a aucun danger, s'il n'y a aucun risque, même un risque sur le plan esthétique, ça, c'est ce qui fait la valeur de la chose.
À votre avis, a-t-elle fait beaucoup de bons films ?
Non, moi, je trouve qu'elle en a fait un, son Dieu créa la femme, qui est un très très bon film, que j'aime beaucoup, et celui-là sera son deuxième.
Ne manquez pas de confiance en vous.
Ah, mais il faut.
La confiance en soi, sur le plateau, c'est fondamental.
Ouais.
Alors, Bardot, vous auriez aimé la faire tourner ?
À quelle époque ?
Bah, à l'époque. À l'époque du mépris.
Ouais. Ah oui. Mais elle était tellement belle. Et tellement vivante.
Ouais, mais ça peut paralyser aussi tant de beauté, non ?
Bah, ça, c'était. Mais c'était tellement bien pour le rôle.
Ah oui.
Je veux dire, c'était bien qu'elle soit sublime de beauté, en même temps avec des cheveux blonds de salon de coiffure, ça donnait un truc de vérité totale, quoi. C'était pas juste, elle est pas sublime de beauté naturelle. Elle est sublime de beauté esthétique. C'est déjà une création, ouais. En fait.
Ouais.
Donc ça, heureusement qu'il l'a pris elle, quand même. Coup de bol.
Est-ce que pour vous, c'est un film plus sur le couple, plus sur le cinéma, plus sur le monde moderne et le monde ancien? Parce qu'il y a quand même cette image de Fritz Lang qui incarne tout un cinéma que Godard adore et qui est en train de mourir, en gros. Il perd le pouvoir, c'est ça. C'est aussi une question de pouvoir entre les anciens et les modernes. C'est comme ça que vous le voyez, le film? Réflexion.
Oui, grosse réflexion. C'est un film sur le ciel, la mer et la soumission aux éléments et aux lois de pouvoir, quoi. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui. Raoul Coutard, vous l'avez rencontré comment ?
Pour Peau de Vache.
Oui.
En fait, ça devait être quelqu'un d'autre qui devait faire le film et. Et puis finalement, c'était pas possible pour des raisons personnelles.
Ouais.
Et je me suis dit, putain, faut que je prenne un vieux. Comme ça, j'aurais pas de problème. Et.
Au contraire, ça aurait pu être des problèmes parce qu'un vieux, il a des idées préconçues.
Ça a été plein de problèmes.
Ah,
bon.
D'accord.
Oui, oui.
Donc vous avez dit, je prends un vieux. D'accord.
Oui, voilà. Donc ouais. Et je me disais, bon, le producteur était terrifié par l'idée de prendre Raoul parce que c'était quand même un film qui avait pas trop d'argent non plus. Et. Donc j'ai rencontré Raoul et le scénario était franchement pas top, mais lui il a adoré le scénario et le tournage s'est très 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 mal passé pendant les 4 premières semaines et après il y a eu des moments de paradis et puis après il a pas signé le film. Voilà.
Alors pourquoi ça s'est très très mal passé d'abord ?
Parce que je savais rien faire et qu'il était très déçu parce qu'il attendait de moi. En fait, j'avais fait avant un court-métrage qui est nul parce que j'avais tout préparé bien. Et là, j'avais décidé de rien préparer. C'est pas non plus la solution. Donc, premier jour de tournage. Et en fait, son équipe, c'était une équipe assez terrible. Ils comptaient tous les samedis leurs heures pour la retraite. C'était leur dernier film à peu près.
D'accord.
Et quand Sandrine et moi, on répétait la mise en place de la scène, j'étais une très jeune femme à l'époque, Sandrine aussi. Il chantait des chansons de cul, c'était un peu lourd quand même. Et Raoul est très dans la provo, un art de droite et tout. Et en même temps, il est un grand poète. C'est un immense artiste. Hein. Et en fait, j'avais décidé qu'il fallait que le doute était constructeur. Que le doute nous oblige à tout le temps se remettre en question et à prendre des risques. Et qu'il fallait que je sois dans le doute. Mais il ne faut pas être dans le doute en premier jour de tournage en tant que réal. Il vaut mieux faire de la merde et qu'après, comme ça, tout le monde va suivre. Et donc, voilà, mais j'ai appris ça.
Il faut être le patron, même si on meurt de trouille.
Le premier jour.
Ouais.
Oui. Enfin, c'était pas une question de trouille ou pas de trouille. Oui, bien sûr, mais on a toujours peur. Enfin, peur, mais il faut risquer quelque chose. Mais le truc, c'était de pas... Le premier jour, faut pas le montrer, quoi. Il faut se débrouiller pour pas le montrer. J'ai appris ça sur Peau de Vache à vie, quoi. Voilà.
Et au bout de combien de jours on peut le montrer?
Bah, je pense que c'est le premier jour, c'est un peu au cordeau. Après, on peut faire ce qu'on. Après, on fait. Après, on fait ce qu'on veut.
Qu'est-ce qu'il avait, Coutard, d'unique dans sa manière de travailler?
C'est-à-dire que on n'arrêtait pas de s'engueuler sur le début de Peau de Vache. Et en fait, mais après, non. Parce qu'il voulait que les nuits soient bleues. Moi, je voulais qu'elles soient jaunes. Parce que je soutenais qu'à la campagne, les nuits ne sont pas bleues. En fait, il avait raison, j'ai vu après. Mais bon. Et donc, du coup, il était très. C'est essentiellement pour ça qu'il n'a pas signé le film. Il n'est pas d'accord sur les nuits. Et aussi parce que je l'avais déçu. Et qu'il trouvait que le film n'était pas bien. Et en fait, après, je l'ai revu. Et en fait, on s'est réconciliés 20 ans après. Voilà.
Pourquoi il a? Parce qu'il a réévalué le film?
Oui, je pense. Oui, oui. Enfin, je l'avais appelé, on m'avait appelé pour me demander de venir présenter Peau de Vache à une exposition d'affiches de tracteurs vers Chartres. Et je me rappelais que, parce qu'il aimait pas le décor non plus, il me disait que c'était pas une ferme. Et je me rappelais qu'il m'avait dit qu'il habitait une maison vers Chartres, qui était une ferme. Mm-hmm. Qui était, ça, c'est de la pierre et tout ça. Et en fait, j'avais dit aux gens, OK, je viens, mais il faut que vous fassiez, vous faites venir Coutard. Ils avaient pas trouvé son téléphone. J'avais été chercher un vieux Belfaille dans le grenier. J'avais appelé. C'était 20 ans après, hein. Non, même plus. Et oui, 20 ans. Et j'avais reconnu sa voix tout de suite. Il avait reconnu la mienne tout de suite. Il m'a dit, comment ça va, mon petit chat? Trop bien. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il faut qu'on règle nos comptes. Donc, il y a une projection dans un camion. On s'en fout de la projection, ça va être pourri. Projection itinérante dans un camion. Pendant une, mais pendant la projection, on s'explique.
On se voit.
Voilà. Et donc là, on a tout mis à plat. Je lui avais dit, j'aimais pas ton équipe. Mais j'ai beaucoup appris. Et puis il m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas. On m'a dit que le film, il était bien. Voilà. Mais non, mais c'était quelqu'un de. Il avait des expressions. Il était complètement amoureux de Godard. Oui. Il était aussi amoureux de certains trucs de merde totale. Mais bon, voilà. Et il était. Il m'avait dit que dans les films de Godard, c'est Godard qui lui disait où mettre les projecteurs. Et je sais que c'est pas vrai, que c'était les deux. Je veux dire, mais voilà. En fait, il aimait qu'il y ait de la force et du risque. Ouais. Voilà, je pense.
On va écouter Raoul Coutard qui nous raconte le tournage du Mépris.
Mépris, il était d'une humeur massacrante, mais. Comme les choses ne devaient pas fonctionner comme il voulait, alors en tout cas il n'était pas de très bon poil pendant tout le tournage. Il n'y a qu'avec d'un seul coup le nom m'échappe là, de l'allemand, le metteur en scène allemand.
Fritz Lang
avec lequel il était charmant, très aimable, etc. Bon, et puis ça, avec l'américain, ça s'était très mal passé aussi dès le début, parce que comme Brigitte ne voulait pas venir de bonne heure le matin, alors donc on commençait avec
Avec Palance,
et puis Palance, naturellement, comme il n'est pas tombé de la dernière pluie, il a bien compris que c'est parce que l'autre ne voulait pas venir. Alors, disons, le premier tournage qu'il y a eu, Jean-Luc lui a expliqué comme il fait toujours, je veux dire, il ne donne jamais de raison. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait, le premier tournage, c'était, il devait descendre un escalier, alors il a dit, bon, là, vous voyez, vous descendez 3 marches, vous regardez à droite, vous redescendez 4 marches, vous regardez à gauche, vous descendez 6 marches, vous regardez tout droit, puis vous arrêtez, vous regardez un coup à droite, un coup à gauche, et puis vous redescendez 3 marches, vous regardez à gauche, et puis vous descendez le reste de l'escalier. Alors l'autre, il a fait n'importe quoi. Alors Jean-Luc a dit, mais non, attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il a expliqué, alors vous descendez 3 marches, vous regardez à droite, vous redescendez 4 marches, vous regardez à gauche, vous redescendez 6 marches, vous regardez de droite et gauche. C'est un monde. Bon. Et puis naturellement, l'autre recommence, et puis il fait un nouveau n'importe quoi. Alors Jean-Luc se retourne le voir en lui disant, mais vous avez pas compris ce que je vous ai dit? Il dit, si, j'ai très très bien compris, mais je veux savoir pourquoi.
Là, ça se finit comment?
Ben, ça s'est très mal terminé, parce que Jean-Luc lui a dit, mais je ne sais pas moi-même pourquoi c'est comme ça, alors c'est pour ça que je vous demande de le faire.
Vous avez souvent des acteurs qui vous demandent pourquoi?
Oui, mais Raoul, il était exactement comme il voulait qu'on lui dise, tu descends 3 marches, tu vas à gauche, tu vas à... Voilà. Et si on avait l'impression d'hésiter, Il a le sens de la formule aussi, hein, Raoul. Il joue au con et en même temps, il allait voir toutes les expos. Il connaissait, il adorait René Char, il adorait la poésie. C'est des choses qu'on ne sait pas de lui, quoi. C'est très.
Et lui, il demandait pourquoi, au réalisateur?
Non, ah oui. Il demandait pas pourquoi, mais il voulait qu'on lui dise tu fais les trois marches, tu vas à gauche, tu descends.
Il voulait qu'on sache.
Il voulait qu'on sache. Mm. Et donc, quand on savait pas, il était ok qu'on sache pas si on lui disait va te faire foutre. Mais voilà. Mais enfin, une fois, je l'avais fait tomber dans les orties.
Il a pas dû apprécier.
Non, mais bon, et après. Après, du coup, c'était cool. Mais après, il avait, par exemple, il veut faire le prolo de base. Par exemple, quand il parlait de sa mort, il disait, de toute façon, tu sais, mon petit chat, bientôt, je vais fermer mon parapluie. À un moment, tout le monde ferme son parapluie. Il disait pas mourir, il disait fermer son parapluie. Donc, il était tout le temps en image, quoi. Je trouve l'expression.
C'est belle. Et malheureusement pour lui, c'est pas lui qui a filmé la fameuse scène qu'on a entendue tout à l'heure, la scène d'amour. C'est Alain Leban, parce qu'il avait déjà quitté le film. Il était plus disponible et il a pas pu filmer tout le mépris. Alors, quelques mois après le mépris, il y a une chanson brésilienne qui a débarqué sur les ondes françaises. Je sais pas si vous vous en souvenez, à la gloire de son héroïne.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte, beijo, beijo. Na tela do cinema todo mundo se afogou.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte, beijo, beijo. Na tela do cinema todo mundo se afogou.
Bebê, bebê, bebê. Porque é todo mundo aliantutado pra moça. Será um pelo pé?
Não é.
Será um nariz?
Chorei.
Será um tornozelo?
Não é.
Será portofelo?
Não é.
Você que é boa em cá, mulher. E de cartão por catier.
Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte, beijou, beijou.
Que todo mundo aliante o tempo pra você. Será um pelo pé?
Não é.
Será um nariz?
Chorei.
Será um tornozelo?
Não é.
Será portofelo?
Não é.
Você que é boa em cá, mulher. E te cartão por catier.
Cet hommage à Brigitte Bardot venue du Brésil. Brigitte Bardot qui ne manque pas d'humour, puisqu'à la mort de Piccoli, elle a dit « Il avait du talent, de l'humour et il aimait mes fesses ». Brigitte Bardot qui s'est très bien entendue avec Godard, quoi qu'on en ait pu en dire. Et Godard se souvient très bien de sa rencontre avec elle et de comment ils ont travaillé ensemble.
Les deux seuls problèmes vraiment que j'ai eu avec elle, c'était lui faire arriver à lui faire mettre sa jupe en dessous du genou. Et ça, j'y suis absolument pas arrivé. Alors j'ai la majeure partie du temps, ou bien je l'ai mis dans un peignoir, ou bien au contraire, je l'ai cadré à mi-poitrine, parce que ça, pas question, elle n'a pas voulu, elle tenait à ses petites jupes.
Oui.
Et puis lui faire baisser sa choucroute, enfin ça. Son truc immense, ouais. Alors ça, on a eu, ça a été difficile.
Supposons que je suis Brigitte Bardot, je vous dis, Jean-Luc, ma choucroute, j'y tiens, j'y touche pas.
Dis, mais écoutez, non, bri-bri, enfin, ayez confiance en moi, ça. Enfin, disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'un centimètre votre coiffure?
Et j'ai vu, c'est une archive télévisée avec Jacques Daniel Vacroz, et on voit Godard qui sève de sa chaise et qui marche sur les mains, il faisait ça très très bien.
Sérieux.
Sérieux.
Ah oui, donc il était fort en sport, quoi.
Absolument, absolument. C'est peut-être pour ça qu'il continue à regarder le tennis, et je sais qu'il jouait beaucoup au tennis. Mais donc, oui, oui, il marchait sur les mains.
D'accord.
Ce n'est pas une formule. Patricia, vous vouliez qu'on parle de la couleur du film, de la tragédie en couleur, vous disiez tout à l'heure.
Non, je dis qu'il y a quelque chose qui est quand même... Le truc entre l'image, la musique et le corps des acteurs fait que... Par exemple, après, je trouve que les grands chefs-op, c'est quand ils sont... surtout maintenant, c'est dehors. Dehors, je trouve ça très dur à éclairer. Dehors, je trouve ça très dur à parce que d'abord, ils contrôlent pas le ciel, évidemment.
Bien sûr.
Et c'est là qu'on voit les grands chefs-op. À l'époque du 35, c'était évident. Maintenant, ça l'est encore plus. Et le mépris, pour vous, c'est quelle couleur?
Pour moi, c'est bleu, jaune, rouge. Voilà.
Ouais. Avec le rouge, le bleu, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et le soleil.
Ouais, c'est ça.
Et le sentiment du soleil, c'est super dur à filmer, quoi.
Ouais.
Et ce que je trouve dingue, c'est que le film, il est du soleil, de la lumière. On a l'impression de toucher la lumière et qui a une dureté incroyable et en même temps une super douceur sur les visages. Parce que, par exemple, Piccoli, son personnage tragique parce qu'il est dans l'échec. Il lui donne une résilience. Là, je vais passer à autre chose, mais il est résilient avec son petit chapeau et
son costume blanc
et ses petites joues. Et tout est clair et en même temps il est noir, quoi. Tout est pourtant tellement clair, il n'y a que son chapeau qui est noir.
Et Bardot?
Elle est bien tout le temps habillée à poil, tout le temps, quoi. Et dans l'eau aussi. Effectivement, dans l'eau, je savais pas qu'il avait dit qu'elle était végétale, mais je pense que ça a été ce qu'ils se sont guidés au niveau des cadres. C'est clair, quoi. Il a voulu la mettre comme une étoile de mer.
C'est ça. Alors, est-ce que dans la vie de Brigitte Bardot et dans sa carrière, le mépris a été aussi important que dans la vie de Jean-Luc Godard? J'ai posé la question à Samuel Blumenfeld, journaliste du Monde, qui écrit des séries d'été dans le Monde et qui, la semaine prochaine, démarre une série justement sur Brigitte Bardot.
À ses yeux, je pense qu'il s'agit de presque d'un accroc. C'est un film qu'elle a besoin de faire, je veux dire, en 62, lorsqu'elle apprend que le projet d'adaptation du roman d'Alberto Moravia traîne un petit peu. C'est un film qu'elle a envie de faire. Elle a d'abord envie de le faire parce que elle adore le roman. Faut pas oublier que Bardot était une assez grande lectrice. Et il est frappant de voir que lorsqu'on regarde les pages de description consacrées par Alberto Moravia à sa personnage principal, donc qui s'appelle dans le roman Emilia, eh bien cette description, la description qu'il donne, en fait, pointe déjà Bardot. Donc c'est véritablement un film que Bardot veut faire parce qu'elle aime le roman et pas spécialement parce qu'elle a envie d'intégrer la nouvelle vague. C'est aussi Bardot qui, d'ailleurs, demande à Godard si c'est bien lui qui compte réaliser le mépris, qui lui dit « Mais dites-moi, vous voudriez pas le faire avec moi ?» C'est Bardot qui demande. Et il faut pas oublier, de toute façon, que dans la vie, c'est toujours Bardot qui demande. D'abord, c'est un tournage compliqué parce que, malheureusement pour Bardot, les choses sont toujours compliquées parce que lorsqu'elle débarque quelque part, il y a une horde de journalistes et quand donc à Rome, on parle de 300 journalistes et photographes. Donc, d'emblée, quand elle débarque sur ce film, elle est un petit peu à part. Et d'ailleurs, c'est le talent de Godard, c'est que elle est tellement à part que Godard se dit, mais il y a un film en marge du film, et c'est là qu'il charge Jacques Rosier, donc le réalisateur d'Adieu Philippines, de réaliser en fait un ou plusieurs courts-métrages justement sur la traque à laquelle Bardot se trouve sujette. Et ça donnera lieu à donc deux courts-métrages, Paparazzi et Bardot et Godard, le parti des choses. Et donc, ça aussi, c'est Godard est un des premiers à concevoir en marge de ce film un film sur le film.
Il a inventé le making-of.
On va dire oui, il l'a inventé. quand on regarde un petit peu la composition d'équipe du mépris, la façon dont ce tournage s'organise, eh bien, c'est un tournage de chien de faïence. Je dirais que d'un côté, vous avez Godard qui est avec son équipe. Vous avez de l'autre, dirais-je, un camp américain, qui est symbolisé par Jacques Palance, qui joue le producteur du mépris, et Jacques Palance, personne ne l'aime. À commencer par Godard, et puis d'une certaine façon, Palance symbolise l'américain, et Godard déteste tout ce qui est américain. Et je dirais qu'il y a un troisième camp, qui est le camp Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui a du mal avec les méthodes de Godard, donc humainement, je veux dire, se sent un petit peu étrangère à tout cela, même si elle s'entend très 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 bien avec Fritz Lang. Et donc cette dynamique dans laquelle Bardot se trouve installée par Godard contribue de manière magnifique au film. C'est ce qui explique aussi que Bardot soit si bonne. Alors, c'est pas la première fois que Bardot est grande à l'écran. Elle a déjà été grande dans Le cas de malheur de Claude Dollara. Elle a été immense dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot. Mais elle est tout aussi immense dans Le mépris. Et ça doit aussi énormément au dispositif mis en place par Godard.
Et quel est le post-mépris pour Bardot ?
Il y a peu de bons films. Il y a surtout beaucoup de projets qui sont refusés par Bardot. Beaucoup de très très bons projets refusés par Bardot. Je pense à La chamade d'Alain Cavalier. Je pense à La Vert Thomas Crown de Norman Jewison avec Steve McQueen qui avait été spécialement écrit pour elle. C'est une gestion de carrière assez particulière. Il faut pas oublier que Bardot réapparaît dans un film de Godard. En 67, dans Masculin Féminin. Elle a une scène où elle est formidable, mais le fait qu'elle réapparaisse dans Masculin-Féminin peut nous laisser imaginer que l'entente entre elle et Godard n'était pas si mauvaise, parce que Bardot étant quelqu'un de binaire, si elle avait vraiment détesté Godard, on ne l'aurait jamais revu dans l'un de ses films.
Patricia.
Il la filme en tout cas comme une statue qui surplombe le Parthénon, quoi.
Ouais.
On dirait qu'elle est en chair et aussi sculptée, quoi.
Elle est déjà mythologique.
Oui, oui, oui. Il la filme comme une grande créature. Mm. Comme un monument, quoi.
C'est ça.
Mais vivant. Et en même temps, marrant. Mm. Mais il est très marrant, Godard. Il a beaucoup d'humour, je pense.
France Culture. Les films qui ont changé nos regards. Michel Halberstadt.
Je veux dire, je suis bien gentil de répondre à ces questions.
Il a effectivement été bien gentil de répondre à toutes mes questions, donc notamment celle-ci. Pourquoi, selon Jean-Luc Godard, Le mépris est un film tellement adoré et quelle place occupe-t-il dans sa filmographie ?
C'était entre les deux. Peut-être entre Nouvelle Vague et d'autres films que j'ai faits qui étaient imbuvables pour presque tout le monde. Donc c'était entre les deux. C'était pas une grosse superproduction comme après le film de Louis Malle. Mais il a fait peu d'entrées récemment. À l'époque, il avait fait 120 000.
Ce qui n'était pas assez.
Ce qui était un échec complet.
Ça paraît fou, non ?
Ouais.
Un échec complet.
Ouais, surtout qu'à l'époque, les films, ils marchaient, quoi.
Absolument. Et puis en plus, à l'époque, les critiques ont été très mauvaises.
Oui.
La seule bonne critique, c'est Jean-Louis Bory, qui disait « Le véritable Dieu créé à la femme, c'est Godard qui l'a tourné, cela s'appelle le mépris. Il y a rarement eu autant aussi profonde, consciente ou inconsciente, entre une actrice et son metteur en scène. »
Non mais c'est vrai.
Ouais. Voilà, comme quoi les classiques, il faut parfois du temps pour les digérer, c'était trop visionnaire. C'est vrai que quand on regarde le film est quand même très culotté, encore aujourd'hui. Donc j'imagine
oui,
dans 58 ce que
mais c'est marrant parce que quand il dit entre les deux par rapport à la question Nouvelle Vague, machin et tout... En même temps, ce que je trouve incroyable dans Le mépris, c'est que pour moi, le film, il fait pas du tout Nouvelle Vague. Pour moi, c'est un classique.
Absolument.
C'est comme un grand classique, comme Rio Bravo, ou voilà, c'est...
C'est un film qui s'impose.
Oui, c'est un film très, comme une maison très, 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 très solide, et puis on grimpe à la montagne, quoi. C'est... Voilà.
Alors, chère Patricia Mazui, c'est vous qui allez inaugurer le questionnaire. Mmh. On y va ?
Oui.
Alors, la première séance dont vous vous souvenez ?
C'est Marco Polo de Denis de la Patellière, parce que c'est là que j'ai décidé que je voulais. J'ai eu la peur de ma vie, j'avais 10 ans ou un truc comme ça, et le film était interdit moins de 11 ou 12, je sais plus. Et Marco Polo se fait étouffer par sous une cloche de verre, et j'ai trouvé ça génial, un truc où on peut avoir aussi peur sans risquer rien, quoi.
Vous aviez quel âge? Alors,
je devais avoir 10 ans ou 9 ans ou 8 ans, je sais plus. Il faut regarder les voilà. Et sinon, il y a Passe-Montagne aussi qui m'a fait voilà, gros choc, qui m'a remis dans, qui m'a fait regarder des films français.
Autrement.
Oui, sur la liberté.
La dernière séance qui vous est marquée?
J'en ai deux aussi là, comme ça. C'est Annette et Emma.
Ah oui. De Pablo Larraine.
Oui.
Votre film de chevet?
Mon film de chevet. Putain, j'en ai plein. Il y a Passe-Montagne, il y a, bon, bien sûr, mais non, parce que je pas tout le temps. C'était un choc, donc c'est bon, on digère les chocs. Il y a Le Privé et Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, que je pourrais être dedans tous les jours. Et aussi les paysans de le film soviétique russe.
Pas vu.
Ouais, un film très. Ah, mais non, ça, c'est l'autre question. C'est l'autre question.
Ah, c'est le film de quoi?
Le film pas connu.
Ah oui, voilà. Non, là, on est dans le film de chevet.
Ouais.
C'est tout pour le film de chevet. Là.
Non, ah, bon. Je vérifie.
Ça court.
Ouais. Non, mais il y en a un. Putain. Il y en a un, là, j'ai un trou, là, c'est le trac de dire les films de chevet.
Est-ce qu'on passe au film dans lequel vous aimeriez vivre, alors?
Ouais.
Ah, le problème des iPhones, c'est que ça se bloque quand c'est on se met sur mode avion.
Voilà.
Et oui, c'est ça.
Oui. Plusieurs aussi.
Dans lesquels vous aimeriez vivre?
Oui.
Mais on n'a pas plusieurs vies, on n'en a qu'une.
Bah, allez, oui, Patricia. Mais c'est ça qui vient au cinéma. Non.
C'est quoi alors les films?
Il y a Bemous Papam.
Oui. Avec Piccoli.
Oui. Bah oui, il est incroyable. Sublime. C'est quand même quelqu'un qui se retrouve à diriger le monde et qui refuse de diriger le pouvoir parce qu'il voit que le monde est en chaos.
C'est ça.
Mais je ferais bien le garde suisse qui fait semblant qu'il est le pape et qui fait le con et qui mange et qui regarde les cardinaux qui jouent au volet. Ouais, voilà, j'adore ce film. Et il y a Guet-apens.
Ouais.
Et puis parce que bon, Steve McQueen quoi. Et puis José Wales. Voilà, j'irais bien dans José Wales tout le temps.
Bon, on va avancer plus vite. Alors, le classique qui vous laisse de marbre?
Quai des Brumes.
Bon, pourquoi pas.
No comment.
La pépite, donc, c'est le film, c'est Les Paysans?
Oui.
C'est ça votre pépite?
Oui, non, il y en a plusieurs. Il y a, en fait, j'ai vachement hésité. Il y a La Chevauchée des Bannis que je remets,
oui.
D'André de Tosse, qui est un film que je connaissais pas, que j'ai vu il y a un an, et que j'ai halluciné. Le film russe qui n'est pas connu, c'est Les Paysans de Friedrich Ermler.
D'accord.
Je l'ai vu dans un cycle cinémathèque il y a 2-3 ans. C'est incroyable.
Ah, il faut qu'on se dépêche. Votre voix de cinéma.
Uprising.
Oui.
De Zelimir Zilnik. Voilà. Ma voix de cinéma, alors c'est un peu pénible parce qu'on vient de parler du Mépris et tout, et de Godard, mais en fait, je me suis dit, il n'y a que la voix de cinéma pour moi, c'est Godard. Parce qu'il me fait rire, qu'il me fait penser et qu'il est poète. Ça fait tout ça en même temps quand même.
Votre salle préférée?
UGC Ciné Cité 19.
Votre prochaine séance?
Je ne sais pas, peut-être la loi Téhéran.
Et votre vœu cinéphile?
Alors ça, c'est une question complètement débile, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Donc au début, je me suis dit, je ne réponds pas. Et puis je sais ce que c'est de faire... j'aimerais beaucoup que toutes les boîtes qui font les films annonces sautent à la dynamite.
Merci d'être venue, Patricia Mazui. Aujourd'hui, pour cette émission, à la réalisation, nous avions Doria Zénine, à la préparation, Meryl Moneghetti et Lila Bozos, à la technique, Félix Delacour. C'était les 10 films qui ont changé nos regards. Aujourd'hui, Le Mépris. Demain, ce sera Le Troisième Homme avec Philippe Leguet. Bonne journée.